Vous écoutez
RMC.
RMC.
Elle avait besoin de cette victoire pour se remettre un peu la tête à l'envers.
Voilà, on doit relever la tête de l'eau et avancer.
C'est clair qu'ils ont un peu la tête dans le tapis, comme on dirait.
Daniel, je te le dis en pleine tête.
Ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les épaules sur la tête.
Ils se sont fait dominer de la tête et des pieds.
On a rappelé des mecs qui avaient quand même les épaules sur la tête.
Mais
on
qui a dit ça
mais il a tête de con.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit. Nous sommes là en direct sur RMC, nous sommes en direct sur After TV, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'After également. L'After toujours première radio de France grâce à Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et grâce à Manu Petit.
Bonsoir tout le monde.
Salut Manu. Ils sont déjà là avec nous, nos drôles de dames espagnoles et anglaises. Après cette confrontation entre Arsenal et l'Atlético, Julien Laurence est là. Julien Laurence est en finale, messieurs dames. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec son équipe de cœur, il peut peut-être même avoir une finale avec ses deux équipes de cœur.
Ça peut le doubler, effectivement.
Peut-être le Laurent Sico, là.
C'est vrai.
Ça va être compliqué. Hein.
Edgar Grandot est là également. Salut Edgar.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
32-16, on vous attend pour dialoguer avec nous, discuter, bien sûr, débattre. Le standard RMC est dispo. Et puis notre numéro WhatsApp 06 12 424 424, là aussi. Vous pouvez nous envoyer les messages écrits dès maintenant. Arsenal bat l'Atlético 1-0. Arsenal qualifié donc pour la finale qui est programmée le 30 mai à Budapest. D'ailleurs, horaire un peu différent cette année, c'est à 18h la finale. De la Ligue des Champions.
Tu vois, ça m'a complètement échappé.
Oui, c'est à 18h.
Ça m'est complètement
échappé. C'est ridicule, ça.
Oui, je ne sais pas. C'est pas des pourquoi raisons logistiques de retour de supporters. Enfin, il y avait. C'était décidé il y a quelques
18
temps.
18h, une finale de Ligue des Champions.
18h. Je n'ai
jamais entendu parler de ça.
C'est un samedi.
Oui, je ne sais pas l'info principale du soir, si je peux me permettre. Parce que là, je vous vois complètement.
Regarde à quel point cette
vidéo.
C'est une information qui est déjà très importante.
Tu m'as niqué ma soirée.
Non, Manu, calme-toi. C'est pas bien grave.
Celle de ce soir ou celle du 30.
Celle du 30.
Je change.
Il avait déjà calé des trucs.
Qu'est-ce
que tu l'emmerdes là?
Peut-être que tu vas y aller à Budapest, Manu.
C'est bizarre.
On va s'adapter, on va s'adapter.
On va faire un after à 20h.
Bah ouais.
Mais non.
Bah after 20h minuit, voilà.
Moi je pense que cette news a vraiment.
Je sais pas si
Manu,
le PSG est champion.
Hein?
J'ai pas souvenir d'avoir une Champions League finale à 18h.
Non, je crois que c'est jamais arrivé.
Et si c'était une mauvaise info c'est que tu avais donnée?
T'es sûr de ça?
Non, c'est officiel, ouais.
Ah, d'accord.
En fait, c'est bien ce que je pensais. En fait, il y a une histoire de retour de supporters pour pouvoir rentrer dès la fin du match.
Il veut pas qu'il reste à Budapest, les supporters.
Bon, bref.
Bon. Cassez-vous!
Jingle 3 points, s'il vous plaît.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Bah, le premier point, c'est la qualif d'Arsenal que je vais appeler à la sauce Arsenal. Et c'est, je pense, au final, une qualification méritée. Mais le point 2, et là, je vais avoir besoin de Julien et Manu parce que ça fait longtemps que je répète la même chose et que visiblement, bah, tu sais, c'est comme quand tu goûtes un produit indéfiniment et tu n'arrives toujours pas à savoir s'il est bon ou pas. Donc, cette sauce Arsenal, je n'arrive pas réellement à la comprendre. Donc, c'est mon point 2. Et le point 3, bah, je pense qu'on va quand même parler un petit peu, si on a le temps, du match de demain, que tout le monde attend. Et en voyant le match de ce soir, je me suis dit, est-ce que le PSG-Bayern de l'aller et celui qu'on attend demain doit forcément servir maintenant de référence absolue? Et je milite pour que ça ne soit pas le cas, parce que sinon ce soir, on va entendre plein de gens nous dire que c'est un match de merde. Et j'ai pas envie qu'on tombe dans cet excès-là, non plus.
Manu, tu te reprends.
Évidemment, la qualif d'Arsenal en Champions League, et en même temps qu'ils sont redevenus leaders de Première Ligue, ça fait 20 ans quasiment que dernière finale Champions League et également les derniers titres de champion d'Angleterre.
C'est 20 ans tout pile, hein, la finale contre
c'est
pour le Barça.
C'est ce que je te dis. Est-ce que c'est le destin ou pour moi, ça peut pas être une coïncidence. Le deuxième point, c'est le retour de Saka qui a manqué cruellement toute la saison et qui aujourd'hui est en train de monter échelon après échelon, donc il arrive vraiment dans le Money Time, un point nommé, en sachant que tu auras Hakimi, même si c'est pas les mêmes zones, qui sera absent, donc il y aura un impact à la fois, il y a un joueur incroyable qui revient sur le plan offensif et un joueur incroyable qui sera pas là sur le plan défensif du côté du PSG.
Mais pourquoi tu parles du PSG?
Parce que tu
se projettes,
je me projette parce que moi je vois le PSG gagner.
Ah Ah, t'es déjà dans la finale.
Ah, je vois là. Oui, je, pour moi, c'est pour la,
la
finale.
Là,
pour moi,
ça sera pas trop, c'est les trois points.
Et justement, et donc, plus, mon troisième point.
Saka, il joue pas de ce côté.
Mon troisième point. Non, mais.
Bizarre ta projection, je trouve.
Mais ma projection, c'est parce que Saka revient dans le domaine offensif. Il a beaucoup manqué, notamment dans l'animation.
Est sûr qu'il rate la finale. Il est pas out jusque-là.
Blessure musculaire, je sais pas dans quel état il sera, mais. Mon troisième point.
La projection de
Mercator, bien évidemment.
C'est la projection de ouf.
Il y aura bien évidemment une opposition de style en finale. Donc et là je, pour répondre à ton deuxième point, tu ne savais pas, ouais, ta sauce.
Je veux que vous me vendiez cette sauce.
Bah, une équipe qui arrive en qui perd en finale Coupe de la Ligue, qui arrive en finale Coupe de Champions League, qui est redevenue leader à trois matchs de la fin de première Ligue, alors qu'il a fait quasiment cheval seul pendant tellement de mois sur la première Ligue, et qui perd en demi-finale de la FA Cup, qui est quasiment allé au bout de toutes les compétitions, ne peut pas être aussi mauvaise que beaucoup de gens le prétendent.
C'est pas plutôt cavalier seul que cheval seul.
C'est pareil, tu as compris.
Non, mais attends,
bah, cavalier, ouais, j'avais compris,
mais cavalier
c'est
sur un cheval. Bah, cavalier ou cheval seul.
En fait, il nous a fait une manu petit, là.
Bah, justement, il y a, encore une fois, dans le football, à l'image de la vie, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome. Il n'y a pas une façon de gagner des matchs. Donc, il y a tous ceux qui seront certainement extasiés sur la tactique et le jeu défensif, notamment des deux équipes dans cette double confrontation, comme d'autres vont s'extasier.
Mais le problème, sur football champagne. Le problème, quand je parlais de la sauce Arsenal pour rentrer dans ce match, on a donc eu deux matchs. Qui ont certainement, en plus ce soir, peut-être même plus qu'à l'aller, été intéressants tactiquement. Arsenal nous a fait le coup de « on marque un but », qui est une sorte quand même de but qu'on peut qualifier de raccro, et qui le tiennent jusqu'au bout, qui a réussi là où on pensait que, et sur la première mi-temps, l'Atlético, on a eu cette opposition de style, parce qu'Arsenal a essayé de faire le jeu, a essayé d'attaquer, et l'Atlético s'est très vite mis en défense et a mis du temps à sortir. Ils ont été capables d'alterner, l'Atlético, parfois bloc très bas, parfois bloc très haut. Ils ont essayé de les contrecarrer de cette façon, sans au final se créer véritablement beaucoup d'occasions. Donc Arsenal n'a même pas eu besoin de sortir son mur défensif.
Il a été bien aidé par Simeone également en deuxième période.
N'oublions pas qu'ils n'ont encaissé que 6 buts cette année en Ligue des Champions, ce qui est quand même assez fou. Est-ce que cette méthode-là, qui en plus n'était pas la méthode à la base d'Arteta et du football qu'il préconisait, est-ce que, puisque tout le monde se projette, puisque maintenant Arsenal est finaliste, que ce soit le Bayern ou que ce soit le PSG, est-ce que cette méthode-là peut fonctionner? Je n'arrive pas tellement à l'envisager, mais si Julien et toi vous arrivez à me dire,
je
comprends peut-être
te dire.
Pas la force, le bloc, la façon dont ça joue.
Non, je mets en garde. Je mets en garde tous les gens qui aujourd'hui se projettent sur la finale
une mauvaise équipe.
En se disant que ça soit le Bayern ou le PSG, c'est largement supérieur à Arsenal. Moi, je mets en doute justement.
Restons sur le match de ce soir, les gars. Julien, avant de parler de la finale, des problématiques d'Arsenal, qui en 48 heures a peut-être vu le championnat s'ouvrir avec City qui gagne pas hier et donc la qualif là. On voyait un peu les visages des supporters là. Il y en a deux trois. Il y en a même beaucoup. Qu'il y avait une sorte d'émotion en fait, de libération.
En 24 heures, ils sont passés de l'équipe. Ils vont encore nous loser l'année.
Ouais, ils sont redevenus leaders.
Ils vont encore, ça va être encore affreux, machin. En peut-être champion. Ouais. Et pourquoi pas champion d'Europe?
Écoutez, Julien, il connaît tout le monde au stade. Là, parce que là, il y avait Joe qui était au premier rang avec
il est mis en taxi, Joe.
Joe avec son bonnet Arsenal. Il y avait Margaret avec son maillot rouge. Donc voilà, Julien, raconte-nous.
Ouais, il y avait forcément un peu de tension sur la fin, c'est normal en plus, quand il reste que quelques minutes, ça chauffait un peu sur le terrain, c'était un petit peu tendu forcément. Et puis t'as quand même attendu 20 ans, c'est ce qu'on a dit, ça fait 22 ans que t'attends un titre, ça fait 20 ans que t'attends une autre finale de Ligue des Champions, pendant longtemps t'as même pas été en Ligue des Champions. Ça faisait pendant 8 ans quand même qu'ils avaient raté la Ligue des Champions sous Wenger et puis après Wenger aussi. Donc d'être de retour, d'avoir fait demi-finale la saison dernière, quart de finale la saison d'avant et à chaque fois d'avoir progressé pour monter d'un palier à chaque fois et de là d'arriver en finale, surtout de la façon dont ils l'ont fait, c'est quand même la seule équipe qui est encore invaincue dans cette compétition, ils ont pas perdu un seul match, ils ont été à domicile, à part un but du Bayern et deux de Karat Olmati avec l'équipe C d'Arsenal, ils ont été sincèrement impériaux à domicile. défensivement et parfois avec le ballon très très bon, comme le match contre le Bayern dans la phase de poule, comme le match contre l'Atlético, le 4-0 dans la phase de poule aussi. C'est sûr que ces dernières semaines, ça a été un petit peu plus laborieux dans le jeu avec ballon, mais c'est pas la première fois qu'on voit aussi des équipes quand les matchs, les derniers matchs de la saison arrivent, que la fin de saison arrive, que tu te crispes un petit peu aussi et que forcément, quand il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, que ça change un petit peu de ta façon d'évoluer aussi et de jouer. Mais sincèrement, c'est de la part d'Arteta qui, encore une fois, pour son premier job, même si ça fait maintenant 6 ans qu'il est là, mais quand même, qui n'avait jamais entraîné avant, qui connaissait pas la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur et qui ne l'a pas connu d'ailleurs pendant ses 3 premières saisons, d'arriver à faire quart de finale, demi-finale, finale, comme ça, les 3 saisons où il est en Ligue des Champions, où il ramène le club en Ligue des Champions.
Mais qu'il y ait les résultats, qu'il y ait le travail, qu'il y ait tout ce que tu veux, j'ai aucun problème, mais ça veut pas dire que constater que les résultats sont là, que tu comprends réellement la sauce, la préparation, la recette qui fait que cette équipe fait ça. Par exemple, moi, les questions, c'est les joueurs dans cette équipe-là. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que, à partir du moment où Saka est revenu, maintenant Saka est là, ce soir il portait le brassard, Odegaard était sur le banc. Ça fait partie des choses dans la recette que j'ai du mal à comprendre, parce qu'Odegaard est censé être capitaine ou vice-capitaine avec Saka, bon, ils sont un peu là comme ça et tout. Bon, alors, Odegaard, titulaire, pas titulaire, je reviens de blessure, je reviens pas de blessure, Lewis Kelly, on me dit c'est une très bonne nouvelle de le voir revenir. En fait.
Dans une position inhabituelle.
Moi qui, je suis au milieu là, moi qui considère beaucoup que les équipes qui vont loin dans les compétitions, ils vont avec un 11 type agrémenté d'un 12, 13, voire 14e joueur. Là, ça brasse beaucoup, mais j'entendrai l'argument, et je l'anticipe l'argument.
Je ne sais pas si ça brasse beaucoup, Daniel.
Quand tu joues la Première Ligue et que tu as encore, on faisait le compte juste avant le début de l'émission, la finale, c'est le 30.
Non, mais Daniel, si tu suis Arsenal dans les gros matchs depuis le début de saison, hormis les blessures, c'est souvent le même 11 qu'aligne Arteta. Il n'y a pas vraiment d'invention.
Il n'y a pas de brassage.
Vas-y, Julien, vas-y.
Non, je sais pas. Alors là, Odegaard revient de blessure et puis il n'a pas été très bon cette saison, mais tu es allé chercher Eze l'été dernier pour 60 millions d'euros pour être soit l'équivalent de Odegaard dans un sens, soit jouer parfois ensemble dans certains matchs.
C'est venu que des blessures, c'est pour ça que j'ai cette illusion.
Même en termes de jeu, le jeu est tombé d'un niveau, même de deux niveaux, parce que tu avais à la fois Odegaard et Saka blessés sur une longue période. Et c'est eux qui étaient les deux dépositaires.
Odegaard, moi, il me manque dans le jeu. Dans pour moi, dans l'Arsenal qui me séduisait, c'est vrai qu'Odegaard avait un rôle important au milieu.
Ah oui. Julien, le poncif habituel en Angleterre, on préfère la Première Ligue gagner le championnat plutôt que la Ligue des Champions, il est toujours valable pour Arsenal cette année.
Manu m'a dit ça avant le début de l'émission, je n'en revenais pas.
Je le pense, alors c'est quelque chose d'important, la Champions League, il n'y a pas de souci. Mais le championnat anglais a une telle domination, à la fois au niveau des télés, mais également en termes de spectacle, que quelque part, et puis quand tu vois aussi les budgets de tous les clubs,
c'est comme
toutes
s'ils avaient
les équipes,
deux ligues à jouer en fait.
Au lieu de dire gagner le championnat d'Angleterre, c'est franchement ce qu'a fait City sur la dernière décennie, ce qu'a fait Guardiola, il a marqué à jamais de son empreinte le football anglais, mais le football mondial.
Ça n'arrive pas des dynasties de ce genre.
Exactement, c'est quand tu vois là, les équipes, les écuries de tous les grands clubs en Angleterre.
Tu perds des points tous les week-ends en Angleterre.
Tu dis, c'est un truc de fou quoi.
Alors, je me demande,
ils sont contents d'être en finale.
Julien.
Et peut-être non, d'ailleurs qu'une victoire en Ligue des Champions, ça marque aussi. Les deux marqueraient l'histoire du club, mais est-ce que dans 20, 30 ans aussi, si c'est
Londres,
ta seule opportunité de gagner avec des champions, tu vois?
Moi, je pense que c'est vrai,
non,
raison.
Pas à Londres.
Merci. Donc, Julien, à toi.
Non, et puis, ils sont quand même très contents d'être là, et je pense qu'ils vont avoir visiblement, autour de 20 000 places pour chaque club. Ils seront 100 000 à Budapest. Donc, à un moment, on peut bien dire qu'ils préfèrent gagner la Première Ligue, ce qui est vrai. Ça fait tellement longtemps que tu l'attends aussi, et puis c'est quand même la suprématie dans ton pays. T'es la meilleure équipe de tout le pays. T'es meilleur que Liverpool ou que City, etc., etc. Mais à un moment, ils vont pas non plus bouder leur plaisir d'être en finale.
Non,
et
évidemment,
encore une fois,
mais la discussion qu'on avait.
À choisir, ils choisiront la première ligue.
Non, mais voilà, en plus. Non, mais ce qu'on disait avec Manu était soulagé en parlant. Il parlait du match d'hier soir. City qui est allé perdre des points dans un match où une équipe en face, on comprenait pas bien. Bon, bref, c'est toute la difficulté de la Première Ligue. Et il disait. Arsenal, il me disait, moi, en tant que gunner, je préfère que si on doit choisir, je préfère gagner le championnat. Mais ça, on l'entendra pas au Bayern, on l'entendra pas au PSG où le championnat est devenu une
plié rapidement quoi.
Donc en fait, t'as quand même une grande différence entre les équipes qui participent désormais à la compétition. Arteta fait une allusion très intéressante cette semaine qui amène une réflexion plus globale sur ce qu'est le foot en Europe aujourd'hui. Et cette difficulté là, tu vas la retrouver.
Il a dit quoi, Arteta?
Ben en disant oui, mais nous avec le championnat maintenir cette intensité là, ces courses que tu maintiens, alors que le PSG a opté dorénavant c'est les 20 matchs de les 18 matchs de, enfin les 17 précisément matchs de Ligue des Champions qu'on vise si on va au bout, c'est ça la priorité. Le Bayern est champion depuis, le PSG n'est pas encore champion,
ça fait deux semaines qu'ils sont,
le Bayern est déjà champion
depuis deux semaines,
tu te rends compte que.
Et Arsenal pourra peut-être l'être demain, à la dernière journée, allez savoir.
Demain ils ont leur dernier match, c'est le Bayern, le si le Bayern se qualifie. On sera le 6 mai, ils ont 3 semaines jusqu'à la finale. Arsenal, pour être champion, ils ont encore 1, 2, 3 semaines de compète.
Ouais,
et ils n'ont qu'une semaine pour. Tu vois, à un moment.
En sachant que chaque point et chaque but aura son importance en championnat.
Ça, c'est des choses qui sont dans la réflexion qu'on a, dans l'analyse du jeu. C'est pour ça qu'en fait, je voulais que vous me contredisiez quoi sur l'idée, la sauce Arsenal qui est peut-être pas séduisante, mais ils ont des problématiques en fait que les autres, que beaucoup d'autres équipes n'ont pas.
Je pense aussi.
Et après, tu sais,
vas-y Julien.
Non, pardon, Daniel. Même si c'était un championnat plus facile, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui Arteta il change beaucoup sa philosophie et ce
non, mais ne serait-ce que sur l'intensité, tu dois gagner. Je veux dire que quand tu vois le Bayern et le PSG, la façon dont ils courent, les efforts qu'ils peuvent répéter, c'est pas parce qu'ils mangent du cheval au petit déjeuner quoi. Tu vois, ils ont pas des barres chocolatées que les autres n'ont pas. À un moment, si tu affiches cet état de forme là, c'est parce que toute la saison tu as pu préparer d'une autre façon ta compétition quand même.
Oui, mais il y a aussi une question de style de jeu.
Quand t'as des matchs qui toutes les semaines sont usants physiquement, en Angleterre le mercredi, enfin le
t'as vu le match hier d'Everton?
Bah, bien sûr.
T'as vu l'intensité?
Bah, bien sûr, tu peux te faire déglinguer par une équipe d'anonymes. C'est pas la même chose. Enfin, voilà, tout ça, c'était pour parler du style d'Arsenal qui avait beaucoup évolué.
Revenons un peu sur le match. Y a péno sur Griezmann ou pas?
Bah,
puisqu'avant,
il y a une faute de Gabriel.
La faute d'avant, je la vois pas. Moi et la faute sur Griezmann, je la vois.
Ah, mais là-dessus, je suis d'accord. Gabriel joue très bien le goût. D'ailleurs, pour moi, c'est l'homme du match, hein, Gabriel.
Et il y a faute sur Griezmann, parce qu'il lui enlève le pied qui est. Enfin, Stéphane
Frappard aurait
dit ça glisse, donc ça tient pas. Mais il lui emmène bien le pied, il lui glisse bien le pied.
C'est surtout l'occasion de Sorloth.
Oui, à la fin,
Tu rentres, t'es frais.
Sorloth, il est pas toujours habile.
Non, ouais. Je sais, mais
on l'a bien vu.
D'ailleurs, Simeone, il a peut-être aussi sa petite part de responsabilité parce qu'il te sort quand même le trio d'attaque qui sont les seuls globalement à avoir un peu de génie.
J'ai pas bien compris pourquoi il a fait ce choix. Donc Sorloth, je comprends qu'il s'est dit on va essayer d'allonger le jeu et on va essayer de jouer avec ses déviations.
Face à Gabriel et Saliba qui sont bons sur le domaine.
Griezmann, c'est parce qu'il pouvait pas tenir les 90 minutes.
Voilà, à chaque fois je vois une explication.
Julian Alvarez,
la voix, l'explication.
Vas-y Edgar.
Mais Julian Alvarez, le problème, rappelons qu'il était blessé, il était incertain pour ce match-là. Exactement. Donc je pense qu'il serait jamais sorti s'il n'était pas un peu diminué. Bah, mais c'est vrai que là, quand même,
on le risque de le faire jouer d'entrée. Bah, alors.
Alvarez, mec, un peu au-dessus, quoi.
Bah, parce que t'es en demi-finale.
Bah, en deuxième période, alors.
Bah, il a fait le choix dans l'autre sens, quoi. Voici, il y a une diff à faire et après tu sortiras.
Imagine, t'as des prolongues et tout.
Dans un instant, on aura Kevin au 32C, supporter d'Arsenal Euro, bien sûr. On fera une évaluation détaillée. D'ailleurs, c'est Rice, Declan Rice, qui a été élu homme du match. Ce soir, il avait son petit trophée dans la main.
Il a fait un bon match également.
Évaluation à venir, bien sûr. Et puis, toutes les infos avant le match de demain entre le Bayern et le PSG. On a une idée de compo de départ. Nous avons envoyé Fabrice Hawkins. Je vous la donne dans quelques minutes. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Emmanuel Petit qui. En son temps, on n'a pas été en finale avec Arsenal.
On était coupe l'UEFA.
Contre Galatasaray.
On perd en pénalty contre Souker, Hadji.
Daniel Riolo est là.
L'équipe Galatasaray.
Un peu la honte.
Julien Laurence, Edgar Drolo également.
Que vous soyez fait taper sur cette finale, même si Galatasaray avait une très belle équipe.
Avec Hadji, il y avait Hadji, le Maradona des
Carpates. Exactement, Hadji.
Me dis pas que ça n'avait pas été une sacrée contre-performance pour vous.
On a eu quelques occasions.
Vous avez dominé.
On aurait dû plier le match.
Même si c'est vrai, Galatasaray avait emmené par. J'adorais Hadji.
T'es aussi en finale, Monaco-Werder Bremen, tu es aussi.
Ouais, mais ça, c'est.
pendant la période de la tragédie de Furiani.
Le lendemain de Furiani.
Voilà, non, exactement.
C'est le lendemain ou trois jours après?
Le lendemain.
Ouais, mmh. Enfin, c'est trois jours après, le lendemain, Daniel. Le lendemain,
c'était un mardi soir. Ouais, c'est vrai. Ouais,
trois jours après.
Furiani, aujourd'hui, c'est on est le 5 mai. Hein, 5 mai, donc, et la finale était. Ah, non,
je me rappelle, comme si c'était hier.
Donc, t'as pas gagné de finale de Coupe d'Europe au final?
Non. C'est moi, le seul trophée.
Excuse-moi, Manu, vous ne voulez pas attraper les mauvais souvenirs.
Non, mais c'est le seul trophée qui me manque, en fait.
Bah, Galatasaray, mon vieux, c'était pas terrible.
Ouais. Ça, c'est vrai. Kevin est là, supporter d'Arsenal. Salut, Kevin.
C'est Kevin Diaz ?
Non, c'est pas Kevin Diaz.
Non, c'est pas Kevin Diaz. Bonsoir, messieurs.
Salut, Kevin.
Mais c'est sûr que c'est un hommage à Kevin Keegan.
Exactement, mais Daniel, ça fait 15 ans que tu me dis que.
Je sais, je sais, c'est pour ça, je sais qui tu es, je sais. Mais il faut le rappeler, mais qu'un supporter d'Arsenal. Et un prénom en hommage à Kevin Keegan, il y a une anomalie quelque part.
Bah, mon père était fan de Keegan, était fan de Platini. Donc tu vois, j'ai failli m'appeler Michel. Donc à choisir, écoute.
Ah, mais alors,
Kevin Michel, alors, ça aurait dû
être
aussi,
fan,
hein.
Alors tu aurais dû être fan de la Juve ou de Liverpool.
Exactement.
Ou de Hambourg.
Mais non, je suis fan d'Arsenal et je revis ce soir, les gars. Putain.
Ouais.
Ouh eh, Manu, on y va. On y va, Manu.
Et pour quoi faire?
Ah bah ça par contre on verra, mais au moins c'est l'avantage de passer le mardi, c'est que demain je vais être tranquille avec des chips et une bière et je vais apprécier le match, alors que ce soir c'était quand même très très stressant. Ça fait 22 ans qu'on a vraiment il y a 22 ans, c'était incroyable, merci Manu d'ailleurs encore, mais franchement ça fait 10 ans que c'est plus possible, ça fait enfin je veux dire la dernière campagne européenne. Tiens, bah, je vous pose la question, les gars. Je parle pas de l'Europa League de 2019, mais quelle est la dernière vraie belle campagne européenne en C1, donc, d'Arsenal?
Contre le Barça.
La saison dernière.
Bien joué, Manu.
Contre le Barça.
Celle du Barça.
Il y avait le grand Barça et Arsenal à l'époque était labellisé le petit Barça.
Est-ce que Arsenal à cette époque-là n'a pas cet attaquant?
Il y avait Leb, il y avait Fabregas, il y avait
Alexander Leb. Ouais, exactement.
Des superbes joueurs.
Ouais.
Van Persie qui se fait expulser, vous savez, ou en gros.
Julien, tu valides ou t'es pas d'accord?
Ouais, très bien.
L'After était déjà là. On avait fait ce match-là, je me souviens.
La rencontre était exceptionnelle.
Et je crois, Zlatan joue au Barça.
Messi, Xavi, Nesta,
et au match aller, Zlatan joue au Barça. C'est pas là où il met un lob là, un très beau but. Il doit y avoir 4-2 sur l'aller, un truc comme ça.
Bonne question. Non, pas celui-là. Je crois pas. C'est pas celui-là, Daniel. C'est l'année d'après, je crois. Justement, on se fait éliminer sèchement. Là, c'était serré. Il y avait 2-1 pour Arsenal et Van Persie se fait. Bref, mais ouais.
De qui tu veux parler ce soir? De quel joueur tu veux parler, Kevin?
Bah, franchement, quitte à aller dedans, Gyökeres. Mm-hmm. Gyökeres, je vais dire les mots, mais ça il a mis 21 buts, ça chie sur le joueur, je suis désolé. Moi, ce soir, ce qu'il fait, ok, il loupe, il doit la mettre, et là, le stade, franchement, mais sans flamme sur le but qu'il loupe, là. Sur le centre d'Incapié, mais sinon, mais qu'est-ce qui doit être chiant pour les défenses? Là, on parle de la défense de l'Atlético. Il a le nombre de ballons qu'il récupère quand il provoque des attaques, et quand il y a personne, il y va. Et soit c'est un corner, soit c'est un. Enfin, aujourd'hui, et contre Fulham, moi, je l'ai trouvé très, très bon. Bah, il se réveille au bon moment, j'ai envie de te dire, Money Time, il était temps.
Je vais te dire, Kevin, il se réveille au bon moment. Ça fait depuis le début de janvier qu'il est en train de démontrer justement ce pourquoi il est venu à Arsenal. Alors c'est un style disgracieux, c'est un petit peu bourrin des fois. C'est des fois on a l'impression qu'il est fâché avec ses pieds, avec le ballon, mais on peut pas lui enlever que le gars, il tombe, il se relève. Il va venir te provoquer. Il est toujours là. C'est un pou en fait. Moi, il me fait penser. C'est un mixte de Diego Costa. Tu vois, le mec. Je l'ai regardé. Il mettait la tête dans la poitrine des défenseurs.
Moins vicieux.
Moins vicieux, mais ouais. Parce qu'il a ce côté nordique également. Mais le type, tu l'as vu le sprint à la 82e minute. Il est devant sa surface de réparation. Il va aller. Il fait un sprint de 60 mètres. Non mais le mec, c'est tu te dis mais moi je suis content qu'il joue Arsenal. Alors il va pas marquer des buts de 25-30 buts par saison, mais c'est un poison pour les défenseurs physiquement, parce qu'il faut qu'il le regarde comme le lait sur le feu pendant tout le match en fait, ce mec là. Il va te faire des courses constamment.
Gyökeres, Julien, t'en dis quoi toi?
Ouais, moi je pense que c'était son meilleur match, à part l'occasion bien sûr qu'il rate, où il doit faire mieux, même si elle est pas facile non plus avec le rebond avant, mais quand même il doit faire mieux. C'est son meilleur match. sincèrement, même si encore parfois il y a quelques maladresses parce que c'est pas le plus technique non plus, donc il y aura toujours ce genre de maladresse là. Il y a un moment même où il fait tout très bien et puis après il rentre dans sa case parce que comme il peut pas lever la tête puisqu'il regarde ses pieds puisque techniquement c'est pas le, il est même rentré dans son propre joueur, mais dans l'énergie, dans les courses qu'il peut faire. Et enfin, pour rejoindre ce que disait un petit peu Manu, d'ailleurs en 2026 on a vu la différence par rapport à la première partie de saison. C'est là où il met le plus de buts, c'est là où tu sens vraiment qu'il est de mieux en mieux, qu'il a passé ce temps d'adaptation. Et enfin il le serve sur le but, la passe de Saliba pour l'appel de Gyökeres. En première partie de saison, celle-là, elle arrive jamais. Lui, il fait l'appel, mais le ballon est pas servi parce que on va continuer à jouer court vers Eze, vers Saka, vers Odegaard, vers Rice, et on attend et on est patient dans la construction du jeu. Là, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on voit ce genre de passe-là beaucoup plus. On l'a vu contre Fulham sur le but de Saka, par exemple.
Ben, on l'a vu à l'aller également, hein. Zubimendi, ouais. Il le cherche tout de suite dans la surface. Et je suis d'accord avec toi. Les joueurs, ses partenaires, ils ont eu du mal à comprendre ses mouvements, sa débauche d'énergie. Il fallait qu'il trouve un petit peu sa place, hein, dans cette fluidité sur le plan offensif. Le fait que tu joues sans Saka et sans Odegaard, qui sont quand même dépositaires du jeu, il a été orphelin. Lui, c'est un joueur qui demande et qui a une présence à la surface, qui demande constamment qu'on vienne le chercher sur des centres ou de chercher en pivot, tu vois. Et sans ces deux joueurs-là, il a été orphelin et pendant longtemps, on l'a critiqué sur ses prestations, alors que moi, je trouve que c'est un poison et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien.
Tiens, une réaction, les gars, celle de William Saliba, c'était sur Canal+, il y a quelques secondes. On écoute.
Bien sûr, on est très contents déjà d'être en finale parce qu'on sait que c'est très dur d'arriver en finale de Champions League avec toutes les équipes qu'il y a et maintenant avec le nouveau format, il y a plus de matchs, donc on est très très contents et très fiers de nous. Et voilà, on a bien profité dans le vestiaire. Ça fait 20 ans que Arsenal n'ont pas été en finale. Je suis arrivé ici, on a commencé avec l'Europa League. Après, on est allé en quart de finale. L'année dernière, on a perdu en demi-finale. Et cette année, on progresse encore plus. On arrive en finale. Donc, on est très contents. Et voilà, il faut qu'on continue comme ça.
Saliba, Manu, tu voulais en parler?
Saliba, je trouve qu'il a de la chance en ce moment, hein, parce que je trouve que c'est un super défenseur depuis des années, un des meilleurs dans sa position au niveau mondial.
Et moi, un peu moins bien, là, non ?
Je le trouve dans le dur ces derniers matchs. L'énorme gaffe qu'il a failli commettre, justement, sur. Tout à l'heure, tu m'as parlé du penalty de Griezmann, mais je pensais que tu allais me parler de cette action de Simeone, où on voit Gabriel arriver in extremis à la fin et lui enlever le ballon dans le face-à-face qu'il avait gagné face à Raya. C'est quand même la passe en retrait très aventureuse de Saliba qui a mal eu d'appréciation en fait sur cette action-là. Et je trouve que il a des moments où il est pas là pendant quelques secondes dans le match, comme le match contre Fulham. Julien, t'as vu le match comme moi?
Ouais.
Ils ont fait un super match Arsenal, mais en deuxième période, ils sont tombés une certaine torpeur et c'est là où Saliba, il a commencé à vouloir faire des sorties balles au pied où il s'est fait contrer, ça aurait pu être préjudiciable. Il arrive ces derniers temps où il a des moments d'absence qui durent 10, 15, 20 secondes ou des mauvaises relances qui mettent en péril justement l'équipe tout de suite dans la transition. C'est pas le. Heureusement que pour moi, qu'il y a Gabriel à côté de lui, qui pour moi est un rock. Lui, il fait des prestations match après match, c'est impressionnant. Et ce soir encore, pour moi, il a été un des meilleurs, sinon le meilleur avec Declan Rice.
Bon. Si je peux me permettre, le petit point d'histoire, Kevin est encore là?
Oui, Kevin est là, je t'entends.
En fait, oui, c'est Arsenal et Barça, c'était joué deux années de suite.
Oui.
2009-2010 et 2010-2011. Mais c'est la première année où ils sont en quart. L'année d'après, c'est huitième.
Ouais.
Bon, et la première, il y avait eu le quadruplé de Messi. Effectivement, Zlatan avait mis un doublé au retour ou à l'aller, je sais plus.
Sur la défense centrale, les gars, vous êtes d'accord avec Manu?
Oui, Gabriel, c'est vraiment c'est lui le patron. C'est lui le taulier, c'est lui le.
C'est l'homme du match,
rock,
je pense.
C'est lui, quoi.
Même au match aller, j'ai trouvé qu'il avait été étincelant dans la défense à Gabriel, qui captait tous les ballons. Puis en plus, il dégage quelque chose que Saliba ne dégage pas auprès de ses coéquipiers. Il dégage cette rage de vaincre.
Oui, le patron, c'est lui.
Gabriel est toujours là en train de sermonner ses joueurs, de les bouger même physiquement, de les prendre par les bras, de leur gueuler au visage. Saliba, il est plus dans la. Il temporise, il est plus dans la réserve, tu vois.
Est-ce que le PSG va pas le même caractère, pas la même personnalité l'année prochaine, puisque Marquinhos va arrêter? Il va peut-être falloir un défenseur central, non?
Saliba et Gabriel, ça fait deux ans maintenant qu'ils sont le collimateur du Real Madrid.
Ils peuvent être dans.
Enfin, est-ce qu'ils vont sortir les sous?
Ça va prolonger, ça ne partira pas. Hein.
Ah ouais?
Je pense pas. Et moi, je suis Team Saliba.
Moi, j'aime beaucoup Saliba, mais je le trouve un peu dans le dur ces derniers.
Je suis pas trop d'accord.
Ah bon?
Contre Fulham, j'ai trouvé exceptionnel, moi. Ah bon? Alors après, contre une équipe qui était en vacances, qui était déjà aux Maldives, hein. Et même ce soir, il y a la tête en arrière.
Très facile.
La tête, oui, mais tu vois, il a un autre rôle maintenant dans la construction du jeu que Gabriel n'a pas aussi. Et après, il y a un moment en première période où il va sauver parce que Gabriel était parti cueillir des cerises. Et à un moment, c'est lui qui revient juste devant.
C'est Saliba qui fait l'ouverture sur le but, en tout cas.
Et c'est Saliba qui a beaucoup progressé avec le ballon aussi. Moi, je pense qu'il va faire une Coupe du Monde énorme. Et je pense que.
Ah, mais moi, je suis un grand fan de Saliba aussi. C'est juste que.
De temps en temps,
il a tendance à s'endormir.
Un peu moins patron et moins bien qu'en ce moment.
Il a un style moins impressionnant aussi que Gabriel parce qu'il est beaucoup dans la gestion, sur le fait d'être bien placé. En fait, il neutralise, j'ai l'impression, assez rapidement des situations. Là où Gabriel, ce soir, par exemple, a beaucoup plus des situations impressionnantes. Parce que c'est des vrais duels, des chocs, et donc tu retiens davantage aussi ce qu'il fait.
Ouais, et puis il y a autre chose aussi, Arsenal, une de leurs qualités suprêmes, c'est quand même les coups de pied arrêtés.
Même dans ce secteur, c'est un peu qu'il y a quelques semaines quand même.
Hein. Oui, mais je suis d'accord. Mais
après, on voit qu'il y a le souci de bosser là-dessus. Il y a le souci de bosser la combinaison. On voit qu'ils essayent à chaque fois d'être créatifs là.
Là où je veux en venir, c'est que sur le plan offensif, des garçons comme Gabriel et Saliba devraient être beaucoup plus dangereux. Gabriel l'est un peu plus que Saliba. Il a marqué 15 buts
depuis
la saison. Oui, mais dans des matchs fermés comme ça,
c'est que sur sa tête à lui.
Dans des matchs fermés comme ça où c'est très tactique, où tu sais que tu peux faire la différence sur coup de pied arrêté, et tu sais qu'en plus c'est une de tes principales armes.
Un peu en baisse.
T'as envie de lui dire quoi, Manu? T'as envie de lui dire Gabi.
Moi, dans toutes les équipes où j'étais où on gagnait, les défenseurs centraux à chaque fois amenaient leur pierre à l'édifice dans des matchs importants, dans des buts qu'ils marquaient sur coup de pied arrêté, sur les têtes
au milieu des algues et des coraux.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que leur présence est indispensable. Qu'ils arrivent à faire la différence. C'était le cas à mon époque et c'est le cas encore aujourd'hui. Quoi.
Un autre joueur, Kevin, qu'il faut évoquer absolument ce soir. On n'a pas parlé de Saka encore.
Mais très bien, il est sorti à l'heure de jeu, il va être bon pour West Ham. J'espère qu'il n'est pas blessé ni rien, mais voilà. Non, juste un truc, un contre-argument sur Gabriel. Gabriel, il a été blessé cette saison quand, à un moment donné, on faisait beaucoup de clean sheet. Mosquera a pris sa place. Julien, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Mosquera, je l'ai trouvé excellent. Et bizarrement, quand Gabriel est revenu, mais bon, après, il revenait de blessure, mais quand il est revenu, c'est là où on a été un peu aussi dans le mal et qu'on a commencé à encaisser des buts. Et déjà qu'on n'en marquait pas beaucoup, c'est là où on a été un peu en difficulté. Donc je crois que c'est début d'année, etc., où ça a commencé. Donc voilà, c'était un petit contre-argument. Sinon, Trossard, je l'ai trouvé très actif. Alors que franchement, les matchs qu'il fait jusque-là, pas terrible. Et le semi, alors pour moi, il y a pénalty, mais bon, bref, peu importe. Mais le moment où il y a avant le... que je pense qu'il y a pénalty, il fait, je sais plus ce qu'il fait, mais on aurait dit un petit Messi là pendant une minute. Hein. Mais sinon, très bon match de Trossard. Voilà.
Comme Fulham également, il avait fait un très bon match.
Juste pour conclure un mot sur Arteta quand même. Tout à l'heure, Julien disait il est inexpérimenté et tout. Bah, à la fin, il était complètement surex et il a rendu fou tout le reste du banc. Là.
Arteta. Bah, t'as pas vu Simeone?
Ouais, non, mais Arteta,
c'est pareil.
Simeone,
il est jamais dans la zone
deux.
Des entraîneurs. Là. Ah, Arteta, ça sert à rien.
À la fin, c'était n'importe quoi.
Arteta, Arteta je suis pas d'accord pour dire entraîneur expérimenté.
Inexpérimenté.
Même inexpérimenté. C'est ça que je voulais dire. Ça fait 6 ans qu'il est Arsenal maintenant. Il a quand même vu des compétitions, des Ligues des Champions, il en a joué plein. Il est quasiment en course à chaque fois pour le titre en Angleterre. Il a été longtemps l'adjoint de Pep. Ça va. Je pense qu'il a une expérience qui est très très fourni. On parle pas d'un entraîneur inexpérimenté, Arteta. On parle d'un mec maintenant qui a un énorme bagage quand même.
Avec Heinze, n'oublions pas également qui est
qui est aussi calme,
un rôle important,
aussi un gros calme.
Qui s'est calmé un peu quand même.
C'est vrai.
Et il a très peur de l'avion, Gabi. Peur de l'avion. Il déteste les voyages en avion.
Allez, comme Manu.
Et il ira comment?
C'est Bergkamp.
Bergkamp
à l'avion.
Ouais, mais Bergkamp c'était non.
C'est pour d'autres raisons. Moi.
Mais Bergkamp c'était non. C'est je mets pas le pied dans l'avion. Il y en a qui ont peur, mais qui le font quand même.
Maladif. Parce que là, Gabi Heinze il prend l'avion quand même. Il déteste ça.
Gabi Heinze il a peur, mais il va pas aller.
Je te rassure.
J'ai vu une histoire en équipe de France du mec qui avait peur de l'avion. Il était allé en camping-car, justement à Budapest pendant l'Euro là. Bachir.
Ah,
pourquoi il a pas pris l'avion? C'est à cause de quoi?
Mais non, il veut peut-être qu'il ramenait les ballons, je sais pas.
Non. Ah, il n'y a pas un problème.
C'est l'histoire de Denis Bergkamp qui signe à Arsenal. Manu, il la connaît.
Ouais.
Donc, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller en avion, forcément. Donc, il prend sa voiture pour aller à cette époque-là, il jouait pour l'Inter, mais il était à Amsterdam. Il prend sa voiture pour conduire d'Amsterdam jusqu'à Londres. Il signe son contrat. Il prend sa voiture pour rentrer chez lui, forcément. Il s'arrête à la pompe à essence. D'accord? Il met son essence. Il va prendre un café à l'intérieur. Sur qui tombe? Ian Wright. Et Ian Wright, personne ne savait, c'était pas comme aujourd'hui, personne ne savait pas fuiter que Dennis Bergkamp allait signer. Et ils sont tous les deux en train de faire la queue pour payer. Ils se regardent l'un et l'autre. Et Ian Wright lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Dennis Bergkamp dit, je viens de signer pour Arsenal. Et c'est comme ça qu'Ian Wright, avant tout le monde quasiment, a appris qu'il allait être partenaire de Dennis Bergkamp à Arsenal la saison qui suivait.
C'est génial.
Pas mal.
Ah, il y a plein d'histoires comme ça, rocambolesques, avec Arsenal.
Ouais, mais tu les racontes jamais, alors que Julien, lui, il les raconte.
J'aurais pu te raconter mon histoire également quand je suis dans les bureaux de Tottenham et qu'il me paye le taxi pour aller signer Arsenal, quoi, tu vois. Donc, il m'en parle toujours.
T'as fait ça, toi? T'as planté Tottenham?
J'ai pas planté Tottenham.
C'est même eux qui m'ont payé le taxi.
C'était dans les bureaux. C'était pourquoi? C'était pas pour aller faire un tennis?
Après deux heures de réunion avec eux, c'était un matin, c'était fin juin 97, de mémoire. Et ils me disent, où est-ce que vous allez? Je lui dis, ça serait bien que vous me commandiez un taxi. Donc, un taxi typique anglais, tu vois, les black cabs, qu'on les appelle. Et quand j'arrive, jamais je me serais douté, je pensais que j'allais payer le taxi, moi. Mais en fait, c'était prepaid. C'était prépayé déjà par les Spurs. Donc, ils savaient exactement où j'allais. Donc, quand ils ont su que j'avais signé Arsenal, que derrière, on fait le doublé la première année, que je les martyrise à chaque fois.
Et c'est eux qui ont payé le taxi pour que t'aies signé Arsenal? Voilà.
Mais tu sais que ça passe toujours pas. Ils m'en parlent.
Rembourser,
même encore la semaine dernière, ils m'en parlent en Angleterre.
Pas mal.
Tu vois, des histoires comme ça. Mais il y en a d'autres également, un peu plus salaces, mais celles-ci, je les garderai pour moi, tu vois.
Très bien. Julien, merci beaucoup. On garde Edgar parce qu'on va faire un petit bilan Atlético quand même, parce que c'est la fin d'une époque, là, ce Edman. Soir, à l'Atlético. Donc, on va en parler dans quelques instants. Merci Julien, bonne soirée.
Merci Edgar, bonne fin de night.
L'Atlético dans quelques instants, et ensuite PSG Bayern au programme, bien sûr. Enfin, plutôt Bayern PSG. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h36, Emmanuel Petit, Daniel Riolo et Edgar Grolot sont là. On finit l'analyse d'Arsenal Atlético et on dit un mot de l'Atlético, bien sûr, et notamment Antoine Griezmann. Il y a quelques semaines, on disait Edgar, il pourrait terminer en beauté, gagner la Coupe du Roi, gagner la Ligue des Champions. Et bien, au final, il ne gagnera aucun des deux et il va partir sans titre.
Ouais, non, mais c'est ça qui.
Restant l'un des joueurs majeurs de l'histoire de ce club, qui n'est pas rien.
Bien sûr, mais en fait ça, son histoire se termine de la même façon dont elle s'est passée toutes ces années en fait à l'Atlético, c'est-à-dire avec encore une déception, puisque c'est quand même un gars qui a perdu en finale de 2016 en ratant un penalty. C'est un gars qui a connu beaucoup de déceptions en Liga, où il a jamais remporté le championnat avec l'Atlético. Il perd la dernière finale de Coupe du Roi. Et moi, on n'a fait que me répéter ces dernières semaines, ouais, mais la finale de Coupe du Roi, c'est pas important parce qu'ils peuvent gagner avec des champions. Non, la finale de Coupe du Roi, c'est celle qui t'assure une saison réussie en fait. Là, ta saison, elle est ratée. Elle est ratée parce que t'as pas réussi l'exploit de gagner avec des champions, mais en réalité l'échec c'est la Coupe du Roi. Mais ouais, pour Griezmann c'est une triste fin, surtout en plus de ça il termine pas à domicile, il termine loin de ses supporters qu'il aime tellement et avec une défaite. Mais je pense qu'il a montré qu'il avait encore le niveau ce soir. Et moi j'ai trouvé qu'il a fait un super match. J'ai trouvé qu'il était assez isolé et que t'avais d'autres joueurs en fait qui ont vraiment eux pas répondu présent. Lookman qu'on avait beaucoup vu au match aller, mais qu'on avait beaucoup vu rater. Bah, il s'est aussi raté ce soir, mais cette fois-ci
Lookman, c'était le gars invisible. Qui devait apporter quelque chose de plus dans le jeu de l'Atlético. Ouais. Il est arrivé quand même assez souvent qu'on le voit, ce plus à l'Atlético. Mais d'ailleurs, dans le tour précédent, il a été buteur, il a été important. Là, dans cette double confrontation, Lookman aura été.
C'est raté.
Je pense qu'il est
existant. Alvarez aussi, il est passé à travers.
Alvarez, toute la saison, on voit quand même que c'est un joueur hors norme. Ah oui. Il a apporté beaucoup à l'Atlético. On est tous fans. Lookman, il apportait justement autre chose sur le côté, un peu plus de percussion. Sur cette double confrontation-là, on ne l'a pas vu du tout. Il n'a rien apporté.
Match aller, bouffe la feuille à deux reprises. Hein. Deuxième période, rappelle-toi, l'occasion, là, quand il au point de pénalty.
Un contre, ouais, à 3 mètres du but. Non, mais Julian Alvarez, alors ce soir, j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute parce qu'il était diminué.
Il ne devait même pas jouer.
Je pense qu'il était vraiment diminué. Maintenant, sur sa saison, j'ai été extrêmement critique avec lui, notamment par rapport au gros trou qu'il a eu en Liga. Et je pense qu'il n'a pas montré encore que c'était le leader de cette équipe et le joueur au-dessus que tout le monde décrit, même s'il l'a montré par moment. Par contre, en Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Sa campagne, elle est géniale. Alors ouais, il s'est raté sur ce match-là aujourd'hui. Mais mine de rien, sur toute la saison, il te met tes 10 buts en Ligue des Champions. Il a été décisif à tous les tours de Ligue des Champions pour les sortir parfois de situations difficile. Donc c'est difficile de lui reprocher quelque chose sur cette campagne de Ligue des Champions. Et maintenant, c'est comme d'habitude avec l'Atlético. Il va falloir qu'il passe ce cap-là. Est-ce que c'est Julen Alvarez qui va réussir à les faire passer ce cap? On verra bien. Est-ce que c'est Diego Simeone? On verra bien. Est-ce qu'un joueur comme Koke sera là la saison prochaine? On verra
aussi. Qu'est-ce que t'attends, le step supplémentaire, c'est quoi en fait? Tu dis quoi?
Bah, c'est Apollo, le nouvel investisseur qui, si t'as un investisseur comme ça, extrêmement riche, qui vient et qui va apporter du capital et qui veut faire passer un cap à l'équipe, c'est de, cette fois-ci, maintenant, de rivaliser, peut-être dans quelques années
à Armégal. On n'est plus le troisième homme en Espagne.
Exactement, parce qu'en fait, ce qu'a fait Simeone, mais tu peux pas faire plus
pour être en demi-finale, pour être en demi-finale de Ligue des Champions pour l'Atlético. Moi, j'estime que au niveau européen, la saison elle est parfaitement réussie. Maintenant, maintenant en championnat, alors que l'histoire a toujours indiqué que c'était le troisième homme, pour changer ça, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très compliqué.
Non, mais est-ce que ça passe par un lourd investissement des
nouveaux investisseurs? Peut-être que ça va passer par ça, oui. Si le Real continue à être aussi mal géré que depuis quelques années, oui.
Non, mais déjà, ça va passer par les infrastructures, hein, parce que là, ils investissent massivement sur un nouveau centre d'entraînement. Parce que pour le coup, là, il y a. Au niveau du stade, il y a rien à dire. L'Atlético, ils ont rattrapé leur retard. Leur stade est fabuleux. Au niveau des investissements sur le mercato, l'Atlético investit plus que le Real et le Barça sur les quelques dernières années. Hein. Je parle vraiment des 2-3 dernières saisons. Mais ils ont une difficulté, c'est que c'est quand même moins attractif pour les joueurs de venir à l'Atlético. Et aussi, beaucoup sont, je pense, un petit peu... ils n'ont pas forcément envie de jouer avec Simeone, notamment les joueurs offensifs. Mais ils ont un énorme retard par rapport au Real Madrid, par exemple, qui est le centre d'entraînement. Parce que leur centre d'entraînement, il n'est pas du tout au niveau d'une équipe qui joue une demi-Ligue des Champions. Donc ce retard-là va être rattrapé. Là, dans les toutes prochaines années, on verra si ça a vraiment un impact long terme sur le club.
Bon, et Simeone, dans 20 ans, il sera toujours là?
C'est la grande question. Moi, je suis d'accord avec Manu. Hein. Je trouve que ce soir, il s'est un petit peu raté dans les changements. Alors, il n'avait pas énormément d'autres solutions, mais j'ai pas l'impression que sa lecture du match, contrairement au match aller, ait été extrêmement bonne. Et c'est toujours la même chose. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois, quand on sera en octobre ou en novembre, où on se demandera si c'est pas la semaine de trop, la saison de trop pour Simeone. On se demandera si ils doivent pas faire mieux dans le jeu, s'ils doivent pas, si c'est normal qu'ils aient.
Combien de temps
5,
on s'est demandé déjà si c'était déjà sa dernière année, si ça devait pas être toutes ces questions-là, on se les pose depuis des années.
Eh oui, on se les pose en octobre, en novembre. Après, il y a un renouveau. On se dit, ah là là, ils sortent quelqu'un en Ligue des Champions. On se dit, ok, cette équipe, elle a vraiment quelque chose. Simeone, il a vraiment quelque chose. Et tout ça, c'est vrai aussi. Hein. Mais il va falloir le montrer sur une saison complète avec, encore une fois, une nouvelle pression qui va venir sur les prochaines saisons parce que Apollo, ils sont pas là pour faire beau. Ils vont investir énormément et ils vont avoir envie de gagner des titres, même si c'est des copas. Encore une fois, perdre une copa, c'est pas anodin, c'est pas un titre majeur, c'est important et c'est un club qui l'a jamais gagné depuis 2013. S'ils arrivent pas au moins à gratter une copa de temps en temps, là, ça devient insuffisant.
Merci Edgar. Ah tiens, attends, bouge pas. En 2 minutes là, parce que on reçoit ce soir des informations de Fabrice Hawkins concernant Mbappé.
Oui, c'est quoi cette rumeur?
Bah, en fait, il y a quand même, bon, vite fait, on n'a pas le temps de développer beaucoup, mais tout de même, vous retrouvez ça sur rmcsport.fr, mais bon, il y a quand même une grosse zone de turbulence là, donc avec l'histoire du voyage en Italie, même si le club lui avait dit que c'était pas tout autorisé.
L'accrochage qu'il a eu avec au camp d'entraînement.
Alors, il y aurait eu un accrochage avec Bellingham, là, à la mi-temps d'un match.
Alors, ça, c'est verbal, hein.
Récemment.
Avec l'entraîneur adjoint, non?
Voilà. Enfin bref, en fait, t'as l'impression que là, même l'équipe autour de Kylian Mbappé est obligée de faire un communiqué aujourd'hui pour défendre le joueur, quoi. Ouais. Donc, quand on en est là, c'est que c'est tendu quand même.
Ouais. Ouais, c'est tendu dans le vestiaire. Voilà, il a pas des relations exceptionnelles avec tout le monde. Ça veut pas dire qu'il a pas ses amis, qu'il est pas proche des Français. Mais c'est vrai que, par exemple, quand tu le compares à Vinicius, il y a beaucoup plus de joueurs dans l'effectif aujourd'hui qui peut-être regardent davantage Vinicius comme le leader de cette
Vinicius,
équipe.
Vinicius, il a une antériorité que lui n'a pas.
Oui, mais exactement, parce que Vinicius, il a prouvé.
Ça, on sait qu'au Real,
Les titres que le Real n'arrive pas à avoir depuis 2 ans, bah Vinicius, il a montré par le passé qu'il pouvait les gagner en étant le leader de cette équipe. Mbappé, c'est vrai que les gens lui disent les choses frontalement, clairement, et je pense notamment à Jude Bellingham, mais c'est vrai que ils ont eu, j'ai envie de dire, une petite dispute verbale à la mi-temps d'un match de Liga, c'était en février, parce que Bellingham, c'est quelqu'un qui est franc et dit les choses, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens disent les choses à Mbappé, les gens,
chose qu'il a jamais eu l'habitude, par exemple.
par le passé.
Ouais. Exactement. Et ils se disent aussi les choses entre eux. Il n'y a pas que Mbappé avec qui c'est tendu. Hein. Il y a eu des petits accrochages entre différents joueurs de l'effectif, notamment un accrochage physique dans le cas de Rudiger qui a beaucoup fait parler au club. Et la situation, elle est assez tendue. Elle est assez tendue. Et oh, aussi,
quelle fin de saison pourrie.
Manu, tu sais comment ça se passe aussi dans le vestiaire.
Là, on parle d'un club, qui est à part. Le Real Madrid,
C'est pas que fin de saison. Mbappé, il est vraiment un tournant là dans sa vie. Alors, ok, là, il est braqué sur l'équipe de France où il est avec tous ses potes et il a l'objectif de briller pendant cette Coupe du Monde. Il s'en fait même une sorte d'objectif. En gros, pour montrer et pour remettre tout le monde d'accord.
Ouais, il joue gros, Daniel.
C'est ce que j'allais dire.
Il joue très très gros à la Coupe du Monde.
Mais tout jouer ou en gros se dire on va gagner la Coupe du Monde. Ok, on sait que les Bleus sont dans les favoris. On sait qu'il est capable de briller. Mais il y a une concurrence qui est encore plus grande chez les Bleus. T'as une concurrence qui est très grande à l'intérieur du groupe.
Tu veux voir la Coupe du Monde, toi?
Il est peut-être capitaine, mais
il est en train de
le toujours. Une chose, c'est qu'il a toujours été mis sur un piédestal et qu'il a toujours été la star au-dessus des stars. Même au PSG, quand il y avait Messi et Neymar, c'est toujours lui qui sortait son épingle du jeu et qui évitait un petit peu les critiques. C'était les deux autres qui se faisaient plafonner.
Sportivement, il était bon aussi.
Mais c'est ce que je te dis. Sauf que là, aujourd'hui, la donne a changé parce que tu as Olise, tu as Dembélé qui est ballon d'or, qui sort, qui est peut-être en passe aussi d'être champion d'Europe une deuxième fois.
Exactement.
Et que derrière, t'as Olise,
d'ailleurs,
qui éclabousse sa glace.
Tu as des gens qui, en ce moment, oui, en termes de résultats,
ça pose un gros problème.
Et crédit football sont maintenant passés devant.
Alors, moi, ça me pose un gros problème, Daniel.
C'est pour ça que je te parle d'un tournant. Lui-même doit beaucoup se remettre en question. De toute façon, moi, je continue de penser, je le disais déjà à l'époque, que le virage qu'il a fait dans sa vie de vouloir devenir avant-centre, c'est une erreur. Là où il a le plus brillé, c'est soit dans un schéma un peu bizarre qui était Monaco,
Daniel,
deuxième attaquant, ou ensuite en haut à gauche, que ce soit avec les Bleus, avec un œuf autour duquel il pouvait tourner. Cette espèce de reconversion initiée au PSG et maintenant au Real d'être le neuf, ça ne
il est pichichi, mais en même temps, c'est pas ça, Manu. C'est un gros problème parce que
ça ne marche pas.
Moi, je suis à la page. Là, on va parler
donc
de l'équipe de France.
Tournant, lui-même doit se remettre en question.
On parle de l'équipe de France sur 10-15 secondes. Mais j'aimerais pas être à la place de Deschamps. Parce que pour expliquer avec Kylian Mbappé, je vais laisser Dembélé dans l'axe et Olise à droite.
C'est des conneries.
Et que toi, je vais te mettre à gauche. Parce que moi, si j'étais Deschamps, c'est ce que je ferais. Je mettrais Mbappé à gauche, Dembélé dans l'axe et Olise à droite.
Moi, je suis d'accord avec toi.
C'est ce que je ferais.
Il faut lui faire refaire ce qu'il avait et le remettre.
Mais là, il est contesté au Madrid. Est-ce que tu penses que Deschamps est capable de le faire au sein des Bleus?
Sauf que ça voudra dire aussi à Mbappé, prends conscience que tu dois jouer différemment.
Il va falloir que ton statut n'est peut-être plus le même qu'avant.
C'est pour ça que je parlais de remise en cause.
Mais c'est merci, à très vite.
Les grands champions, et j'ai envie de ne pas douter qu'il en soit un, doivent savoir se remettre en question. Il est à un moment de sa vie où il doit se remettre en question.
J'espère pour lui.
Lundi, je rappelle que l'After continue sa tournée des 20 ans et nous serons lundi au cinéma Pâté de Valence, dans la Drôme.
Dans la Drôme, pas en Espagne.
En Espagne, parce qu'on va voir que...
pas très loin du stade Georges Pompidou, à Valence. Donc, si vous voulez venir voir l'After, c'est totalement gratuit. Il suffit de vous inscrire, vous envoyer un mail.
Pourquoi
à public.
Parce que on paye pour aller voir l'After maintenant?
Non, c'est gratuit.
Non, justement.
Mais c'est déjà plein.
Pourquoi tu précises bien. Que c'est gratuit si les gens n'ont jamais payé?
Ah non, parce qu'on a finalement une salle plus grande. Donc,
on a remis des places.
Exactement. Donc, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr. Public@rmc.fr. Vous dites, voilà, je m'appelle comme ça. Je serai là. Je
du Schmurz, et j'ai envie de venir.
Exactement. Okay. Et vous aurez, une réponse. Ah, bien sûr, on peut venir à plusieurs.
Ça peut être aussi du schnock.
En famille, avec des amis.
C'est chelou votre truc.
Ah non, ça se passe très bien. On a déjà fait plein de villes, on se régale.
Okay.
Donc à Valence, lundi. Dans un instant, tout ce qu'il faut savoir à la veille de Bayern PSG, Paulo Breiter va nous rejoindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
23h50, Emmanuel Petit, Daniel Riolo et Paulo Breiter qui nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Demain, grand soir bien sûr, avec le match retour entre le Bayern et le PSG. Une compo probable que nous envoie Fabrice Hawkins ce soir. Bon, ça faut dans les buts évidemment. Zahir Emery, donc latéral à la place d'Hakimi. Marquinhos, Pacho, Mendes. Neves, Vitinha, Ruiz ou Doué, nous dit ce soir Fabrice. Et devant, Doué ou Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Donc en gros, Fabrice ne se mouille pas complètement parce qu'il y a des incertitudes ce soir.
Bon, c'est celle qu'on a depuis un petit moment.
Il peut faire un copier-coller avec le Bayern qui joue en 4-2-3.
Maintenant, Doué au milieu, ce serait une vraie nouveauté. Il n'y a pas de gros match où Doué démarre au milieu, effectivement.
Si, non, mais tu ne prends pas de risque majeur.
Ça veut peut-être dire aussi que Ruiz n'est pas au top physiquement.
Bah, ça, oui, ça le confirme.
Et s'il n'est pas au top physiquement, oui, ça peut être un risque au milieu où tu risques de prendre quand même des grosses vagues des mecs du Bayern qui vont démarrer en mettant tout de suite
un gros pressing. Qui, eux, jouent aussi avec deux milieux de terrain.
Exactement.
Mais quelque part, tu sais, oui, c'est un gros risque dans la mesure où le PSG a rarement évolué sans ses trois milieux de terrain.
Polo, il y a les incertitudes côté Bayern ou il n'y en a pas ?
Oh non, là non, on est parti sur du clair.
Apparemment, Leimer serait l'arrière gauche et Stanisic l'arrière droit. Donc, sinon, c'est du classique, évidemment, excepté Gnabry. Là où je suis un peu plus surpris, c'est, j'ai pas l'habitude au Bayern Munich, c'est l'appel des Bavarois, y compris de Vincent Kompany en conférence de presse, au public de l'Allianz Arena pour gagner cette rencontre. Comme si le PSG leur faisait quand même un petit peu peur. J'ai rarement vu dans des conférences de presse ou dans des dirigeants le Bayern s'abaisser, entre guillemets évidemment, à appeler son public à mettre une ambiance de feu pour passer. Donc je trouve ça.
C'est globalement le cas de toute façon à Munich. C'est pas un stade mou.
Bah ouais, enfin c'est moi je reprends toujours la définition de Paul Breitner. Hein. C'est quoi un supporter du Bayern ? C'est quelqu'un qui n'aime pas les surprises, quoi. Non, qui ne veut jamais être surpris.
C'est un peu normal d'avoir peur du PSG. Cette équipe est un peu rentrée dans la tête de tout le monde, quoi.
Bah oui.
Bah oui, mais c'est comme quand tu rentrais. Je me rappelle pas les Bavarois, enfin les dirigeants bavarois appelaient le public bavarois à faire une ambiance de folie lorsqu'ils rencontraient un grand Real ou un grand Barça ou des choses comme ça. Donc ça me. Je pense qu'il y a un narratif très intéressant qu'on a vu dans la presse d'ailleurs un peu partout entre Heiner, entre Hoeneß qui tresse des lauriers dans tous les sens au PSG en ce moment, comme quoi ils leur ressemblent de plus en plus parce qu'ils ont décidé de pas avoir des superstars mais de créer eux-mêmes des stars, etc.
C'est marrant ça, donc, c'est changement de communication Polo, non
c'est marrant pour ceux qui ont envie d'y croire
parce que le Bayern a souvent fustigé justement l'état du Qatar, quoi.
Mais c'est pour ça que moi je rentre pas là-dedans, enfin ça me fait rigoler, quoi. Mais je constate ça. Ça me fait.
Et parce qu'en Europe, le PSG n'a plus, même au niveau politique, d'ennemis. Parce que le Real était dans ce camp, le Bayern, mais ils ont fini par avoir la peau de tout le monde. Ils ont acheté tout le monde.
Bon, alors écoutez Vincent Kompany, les gars. Il explique peut-être ce qui va se passer demain. Vincent Kompany qui a glissé au passage, qui était fan de l'OM. Je sais pas parce que c'est le PSG demain, mais il dit voilà.
Il a de l'humour en plus, Kompany.
Il explique, il dit en fait en Belgique il y avait un lien avec l'OM, Goethals, tout ça. Lui il adorait la génération Boli. Voilà. Enfin écoutez-le sur le match de demain.
Ça dépend totalement des deux équipes. S'il y a un moment dans le match où l'équipe adverse décide de reculer un petit peu, de laisser un petit peu de temps pour être plus compact et plus complet, c'est possible que la physionomie du match change, mais à partir du moment où eux décident de faire ce qu'ils ont fait toute cette année, et l'année passée aussi dans ce même stade, quand ils ont gagné la finale de Ligue des Champions, après c'est possible que le match ait une physionomie similaire, mais... on a toujours joué les matchs de cette manière, mais à partir de si on parle de l'idée de jeu, je sais pas pourquoi il changerait.
Bah oui.
Il a raison et
lui a dit après le match aller qu'il changerait pas.
Et j'ai entendu beaucoup de débats qui, à mon sens, sont totalement inutiles sur est-ce que le PSG doit calculer ou je ne sais quoi son but d'avance. Dire mais à quel moment le champion d'Europe.
Bah, il l'aurait fait à 5-2 sinon.
Et exactement. À quel moment l'équipe qui est championne d'Europe, qui a des certitudes depuis un peu plus d'un an maintenant et qui dégage une sorte de sentiment d'invulnérabilité va se mettre à changer son concept et ses principes. Mais
les joueurs le comprendraient pas, même si.
Mais bien sûr, par la tête. De quel hurluberlu ça sert à quelque chose de faire ce genre de débat en fait.
Ils vont mieux perdre avec ton jeu.
Va se renier. Mais non, mais tu n'inventes pas. Tu ne t'inventes pas un autre style alors que c'est celui qui te permet de dominer.
En revanche, Daniel,
plus d'un an.
Ils peuvent apprendre de leurs erreurs sur le match aller.
Ouais, si à un moment
tu mènes 5-2, à un moment donné, en face de toi, t'as le Bayern.
Ils sont obligés de défendre parce que le Bayern les
comme ils ont fait contre Liverpool les 30 premières minutes de la deuxième période.
N'oublions pas que l'année dernière, avec malgré toutes les idées et les principes de Luis Enrique, eh ben oui, à Anfield, ils ont dû se mettre derrière à défendre, voilà. Mais c'est parce qu'ils étaient poussés à oui. le faire.
Mais quand t'as 5-2
match à Aston Villa, ils ont été obligés.
Daniel, mais t'as 3 buts d'avance en demi.
Mais ça ne voulait pas dire se renier. C'est juste que l'adversaire te pousse tellement que, ok, tu vas reculer.
Alors j'aimerais que Polo donne son avis là-dessus.
Mais c'est pas un reniement.
Bah, plus que le PSG, c'est le Bayern ne va pas pouvoir changer parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc,
ah oui.
C'est surtout de voir, on va dire, le premier quart d'heure, comment ça va se passer. Le PSG doit tenir au début et puis ils vont jouer en contre. Ils ont une qualité technique pour ça. Moi, j'ai aucune idée de savoir comment va se dérouler la rencontre. Ça se trouve, le Bayern va juste vouloir essayer d'avoir le ballon et de jouer plus tranquillement et de monter en pression durant les 90 minutes. Ils ont un but de retard, faut pas l'oublier non plus. Donc, il va falloir attaquer. Mais je vois pas. Alors, on peut imaginer un Bayern qui attaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas garder les fondamentaux et se prendre. Tu vois, là, Manu a dit quelque chose sur le 5-2-1-5-4. Moi, j'étais effaré lorsque je voyais le Bayern qui voulait chercher le 5-5 lors du match aller et qui laissait Jonathan Tah tout seul aux 50 mètres avec les contres possibles des Parisiens et Dembélé. Enfin, en 1-1, c'est l'une des grandes informations.
Après, quand t'es dans la dynamique qu'avait le Bayern à ce moment-là, je suis pas complètement contre l'idée de se dire les gars, ils sont un peu cuits, on peut aller le chercher le 5-5.
Ouais, c'est ce qu'on disait aussi en 1980. C'est ce que la RFA disait en 1986 contre l'Argentine. Ils étaient cuits, on va leur planter. C'est eux qui se sont fait planter, alors que tout le monde dit aujourd'hui en Allemagne qu'ils auraient dû attendre les prolongations.
Merci Polo, à demain.
Yo, ciao ciao.
À demain. Deux trois infos marseillaises avant de se quitter.
Petite référence à la finale, ouais, au dernier but de Valdano.
Les joueurs marseillais dormiront encore au centre d'entraînement ce soir et demain soir. On leur a annoncé aujourd'hui.
Mais pour faire quoi?
Bah, ils sont conciliés, ils sont punis.
Alors, mais c'est marrant parce que tous les trucs.
Que ça marche ou pas, ils veulent les carrer, ils veulent les punir.
RMC Sport a interrogé un avocat en droit du travail.
Ils sont pas loin, les coups de fouet, c'est possible.
Donc, je dis RMC Sport a interrogé un avocat en droit du travail qui dit sur le plan du raisonnement juridique, on est face à une restriction de liberté fondamentale. Donc, ça peut être assimilé à du harcèlement.
Bah oui, imagine ici, les patrons sont pas contents de notre travail, à tous dans le building, ils nous disent vous sortez.
Vous dormez au bureau.
Vous dormez au bureau.
Mais nous les coups de fouet, on les accepterait.
Ouais, moi aussi peut-être.
Julien Cazard est dans la
place. Oui. Bah lui les coups de fouet, il les donnerait.
Moi je suis assez sadique, ouais. J'ai un petit sadique, moi.
T'étais un adepte du Martinet à une époque.
Oui, ah, mais alors, tu ne crois pas ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai vécu dans un village.
Plus.
Le Martinet,
mais. Le Martinet n'existe plus.
Au départ, c'était surtout fait pour les tapis.
Ouais. Puis, non, le Martinet, ça n'a jamais été pour les tapis.
Au départ.
Le tapis, c'était le truc. Le Martinet, il y a les lanières.
Oui.
Je peux te dire. Non, mais c'était pour te fouetter.
Le Martinet, au tout début, c'était pas du tout pour fouetter les gens.
Ah bon?
Ah non. C'était inventé.
Pour les tapis.
Pour tout ce qui va enlever la poussière de différentes.
Non, le Martinet, il y a des lanières. Comment tu
après
peux enlever
toi,
la
poussière? Après toi, effectivement, quand on te connaît, on a envie de l'utiliser autrement.
Julien, comment tu veux enlever la poussière avec des lanières? Avec des
cuir.
Tu peux pas. Il faut que ce soit raide, le truc, pour taper.
Mais non.
Je rappelle que dans l'histoire de l'after, Eric Dimeco. Ouais.
Je vous rappelle qu'en émission de foot, quand même.
Considérez qu'on demain, le match, voilà, on donne la coupe demain, quoi. C'est affreux. Moi, je veux pas. Vous y allez, vous, à la finale, vous, si c'est Arsenal?
Non, mais toi tu vas y aller.
Oui, moi j'y vais.
Je vais à Budapest.
Il y a quoi ce soir?
On va revenir sur cette magnifique.
Traditionnellement, l'usage du Martinez, c'était pour fesser les enfants.
Mais non.
Bon, bref, il y a quoi ce soir?
C'est pas celui de la base.
À l'époque, il y a très longtemps.
Non, nous allons parler des punitions, justement. Une spéciale sur les punitions. Et Manu, si tu
veux rester. Manu va rester.
Allez, non, mais nous, c'est sur les punitions qu'on n'aime pas. Pas celle qu'on dit, non, vas-y, maîtresse. Non, c'est pas celle-là.
Manu Lucas a enchaîné, c'est tout de suite. À demain.
Et RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.